Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Donc, on est de retour après la pause et justement, là, je vais lancer tout de suite la parole à mon collègue espion israélien, Enzo. C'est à toi la parole, Enzo.
Oui, ben, ok, merci pour la parole, Jérémy. Je te remercie pas pour ce passement de parole. Mais,
c'est des blagues en passant pour tous nos auditeurs. Enzo n'est pas un agent israélien.
Non, je suis pas un agent tout court. Mais c'est ce que dirait. Je suis pas un agent, mais c'est ce que dirait un agent. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ta chronique de tout à l'heure. Tu parlais du manque de démocratie du gouvernement israélien et du manque de la le pouvoir mené d'une façon populiste, et même là, populiste, c'est un mot qui est bien doux pour décrire le pouvoir de Netanyahou. Mais aussi, tu parlais des prisonniers, voilà. Et on a ce manque de démocratie et de cadre institutionnel, il est vrai aussi pour tout ce qui est lié à la justice. Tous ces prisonniers palestiniens qui sont aujourd'hui dans des prisons en Israël sont très peu et très rarement confrontés à une justice. Très souvent, il y a même des mineurs, il y a tout un tas de mineurs palestiniens dans les prisons israéliennes, il y a tout un tas de personnes qui sont dans ces prisons-là et qui n'ont pas nécessairement subi un jugement, qui ne sont pas passés devant une cour, qui n'ont pas été défendus devant une cour et qui sont régulièrement mis en prison, emprisonnés. Séquestrés sans aucune procédure judiciaire, et ce qui est en termes de crise démocratique, ce qui est alarmant. Enfin, je me dis, imaginez si moi je sais pas si dès que des manifestants ou des opposants au pouvoir ou des voilà, ça. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quand on sort de ce cadre-là, du cadre judiciaire, en réalité, c'est quelque chose de bien dangereux, parce qu'on peut mettre n'importe qui en prison, on peut enfermer n'importe qui en fonction de la place de cette personne-là sur notre pouvoir et sur notre politique. Donc il y a cette question-là aussi, cette question des personnes emprisonnées qui n'ont pas un accès réel à la justice. C'est quelque chose d'assez terrible, effectivement.
Mais oui, exactement. Là. Puis, tu sais, à la fin de la journée, Israël, c'est le grand ami américain.
Ah, bah oui.
C'est donc, c'est d'une certaine façon, c'est bien qu'ils disent qu'ils n'endossent pas, mais c'est Israël est soutenu directement par les Américains. Et les Américains vont tenter par tous les moyens possibles d'influencer entre petites soirées, petites discussions, de convaincre en fait le gouvernement israélien de Netanyahou de faire une entente bilatérale avec la bande de Gaza, et ce que Benjamin Netanyahou a clairement répondu qu'il ne ferait pas. Il n'est pas du tout intéressé, c'est pas ça qu'il veut. Et justement, tu l'as dit, ça se peut que en fait certains terrains de la bande de Gaza soient déjà vendus à des entreprises. Donc eux, ils sont déjà passés la négociation. C'est possible, en fait, on est là pour parler un petit peu. Là.
Mais c'est la radio. Mais si on était sur une émission télé, j'aurais balancé les images sur l'écran. Mais oui, on peut voir. Je sais pas si on peut mettre ça sur un lien ou quoi, j'en sais rien, mais on peut voir, oui, comme je disais, sur certaines agences immobilières, des croquis, littéralement, sur la plage de Gaza, et même le fait que ça soit sur la plage est même un argument de vente. Enfin, moi, je trouve ça horrible. C'est bombarder des gens, faire un cimetière et construire des villas sur des cimetières et faire de la spéculation financière sur ces villas-là. C'est beau, c'est les jouissances de l'impérialisme réel, là. C'est assez terrible. Mais oui, comme tu parlais de l'allié américain, c'est aussi pour ça. Moi, j'ai fait une ou deux chroniques là sur la crise du droit international par rapport au jugement entre l'Afrique du Sud et Israël. Mais notamment pour cette raison-là, qu'il est très compliqué de critiquer ou de mettre en cours ou de sanctionner en réalité les actions du gouvernement israélien. car dans les cinq sièges décisionnels à l'ONU, puis dans toutes les autres cours de justice internationale, les États-Unis en font partie. Et comme disait mon camarade, les États-Unis sont un soutien formel à l'Israël. Moi, je parlais là, vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes mains dans la question du plan pour la paix qui avait été signé en 2020 avec l'aide de Donald Trump. Ce plan pour la paix prévoyait une annexion de la vallée du Jourdain jusqu'à 30% de la Jordanie, quoi. Et 30% donc d'un territoire et également 30% de l'État palestinien. Donc voilà, les parce que des intérêts financiers, des intérêts matériels, il n'y a jamais aucune autre raison, hein, mais qui font que les États-Unis soutiennent complètement sur ce plan-là. Là.
Et oui, je vois Marc-Antoine qui a peut-être une petite question, et donc j'y envoie peut-être la parole, peut-être.
Quand tu parles du plan de la paix de Donald Trump, c'est les accords d'Abraham, je pense.
Non, moi je parle de... Ou peut-être que tu as raison, mais je parle de l'application du plan pour la paix qui était annoncé en 2020. Alors je vais fact-checker en direct, mais je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est deux choses qui sont différentes.
Et là, que vous assistez à une réelle discussion. On est très investi justement dans la question parce que vous l'avez toutes vu, je pense, aux nouvelles. C'est quelque chose qui nous c'est quelque chose qui nous choque et qu'il faut avoir justement, qu'il faut vérifier parfois sur le tas comme ça. Et puis c'est ça exactement.
Mais non, effectivement, il faut vérifier. C'est un sujet sérieux, hein. C'est un sujet très sérieux. Mais je pense que c'est deux choses différentes. Tu sais, c'est une période depuis 75 ans, mais depuis plus récemment, tu sais, c'est une période où il y a eu beaucoup d'annexions, de plans de partage, de redécoupage. Les États-Unis aussi ont eu un lien avec ça. Enfin, tu sais, les États-Unis ont aussi déplacé en fait leur l'ambassade américaine
vers Jérusalem
n'était pas un territoire entièrement occupé par l'Israël. C'était un des territoires qui était un peu flou en réalité. Il y avait une partie du territoire qui était palestinien, une partie du territoire qui était occupé par Israël, mais Trump a décidé impunément de mettre l'ambassade d'Israël directement là-bas. Ce qui n'est pas anodin en réalité, ce qui prouve que, ah regardez, il décide à ce moment-là, il décide sciemment de prendre une instance politico-diplomatique israélienne, américaine, mais qui est censée représenter Israël sur un territoire qui n'était pas officiellement occupé par Israël. Donc c'est ça qui est intéressant. On voit qu'il y a cette conscience dans la réappropriation, dans l'appropriation de ces terres-là, dans la colonisation de ces terres-là. Et
justement, là, si je peux reprendre sur ce que je disais, j'interromps un petit peu, là, mais en effet, c'est vraiment le plan de la paix américain, non le traité d'Abraham, là, qui a vraiment été même nommé à un moment donné le plan Trump, qu'on a vu justement, là, c'était Trump serrait la main justement à Benjamin Netanyahu. C'était un plan justement pour que la Palestine puisse garder justement Jérusalem et... C'est vraiment une base de négociation dans le processus de paix entre les deux États. Excusez-moi, j'ai appelé la Palestine un État. Choquez-vous si vous voulez. C'est ça, c'est un plan qui propose un effort international de 50 milliards de dollars qui permettrait en fait le développement de l'établissement définitif de l'État palestinien. Quand les Israéliens conserveraient Jérusalem comme capitale indivisible. En fait, c'est ça, OK. C'est les Israéliens qui garderaient en fait Jérusalem comme capitale indivisible. Donc, c'est ça. Puis au final, on voit bien que c'est caduc. C'est complètement caduc, en fait, cette entente-là, le plan américain. C'est vraiment triste parce qu'au final, les missiles qui ont été envoyés du Hamas ont donné, en fait, selon Israël, toutes les raisons, en fait, de complètement raser la bande de Gaza. Ça les a vraiment justifiés. Là, je lance la parole à Marc-Antoine.
Juste revenir sur un point que je pense que c'est Enzo ou toi qui avait mentionné qu'au niveau des États-Unis sont impliqués, notamment à l'ONU, tout ça. Il y a aussi un article, beaucoup en partie, que les États-Unis et Israël se sont appuyés pour, en lien avec la situation actuelle à Gaza, l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui stipule le droit à une légitime défense. C'est pour ça qu'il y a eu un énorme blocage dans les derniers mois au Conseil de sécurité à l'ONU sur cette question.
Oui, c'est ça, exactement. Puis vraiment, c'est vraiment terrible parce que, d'une certaine façon, il justifie en fait un génocide de par un article, donc par un bout de papier, en fait. On est comme, ah, on est dans des technicalités juridiques et puis ça nous donne le droit de littéralement faire un génocide sur un peuple. C'est terrible. Donc, tantôt, j'ai dit que je voulais être neutre. Finalement, c'est parti tout à fait. Là. Mais tu sais, c'est clairement un génocide.
Mais bah après, je vais pas trop digresser, mais on peut ne pas être neutre tout en restant objectif. Je pense qu'on fait preuve d'objectivité, en tout cas. Mais tu parlais de la Palestine. Est-ce que c'est un État? C'est une question qui est aussi intéressante. Hein. Qu'est-ce qu'un État? Je considère que la Palestine, en tout cas le peuple palestinien, lui, il existe bel et bien. Donc l'État palestinien, à mon humble avis, il existe bel et bien. Mais juridiquement, il n'existe pas, ce qui est intéressant, car il n'est pas reconnu en fait comme un pays par l'ONU, mais il est reconnu comme un État observateur non membre depuis 2012. Et en réalité, c'est une situation qui résulte, car en fait, de nombreux pays ne le reconnaissent pas comme un État. Et en fait, pour être reconnu comme un État aux yeux de l'ONU, il faut avoir une reconnaissance et un soutien international. Je vois que tu, Marc-Antoine, veux réagir. Je te laisserai la parole juste après.
C'est bon, Enzo.
Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je trouve qu'il y a un des enjeux aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on est dans une reconstruction de notre monde international. On est dans une reconstruction, en fait. Les luttes contre l'impérialisme et les luttes contre la colonisation ont réorganisé complètement le monde. Et moi, je trouve que une des choses les plus importantes, c'est la lutte pour l'autodétermination des peuples. Et même cette symbolique juridique qui ne reconnaît pas la Palestine comme un État est une arme, en fait, une arme diplomatique en plus contre cette autodétermination du peuple palestinien, cette autodétermination du peuple palestinien ce peuple qui a de plus en plus de mal à se réapproprier cette autodétermination, à se réapproprier sa terre, car justement à cause de ce manque de soutien international. Et on le voit d'ailleurs dans cette à travers ces attaques que subissent les Palestiniens depuis de ces attaques, ces bombardements, ces crimes qu'ils subissent depuis 3 mois maintenant, que le soutien international, il est faible, il est très très faible, et qu'aujourd'hui on a des ONG comme Médecins Sans Frontières, Amnesty International qui font un travail titanesque là-bas, et on voit des journalistes qui essayent de montrer ce qui se passe là-bas, mais combien de médecins, combien de journalistes sont décédés là-bas depuis le début du conflit. Donc on a ces humains qui font un travail extraordinaire, mais les États en tant que tels, diplomatiquement, sur le plan international, font très peu de choses, ou même sont inexistants, alors que c'est 27 000 morts qu'il y a depuis le début du conflit. Donc ça veut dire beaucoup de choses, le fait que c'est pas reconnu comme un État. Ce manque de soutien là définit énormément de choses, et on le voit aujourd'hui, ça a un impact qui est terrible, c'est le fait que l'international ferme les yeux, notamment pour des intérêts économique. Je te laisse la parole à Marc-Antoine.
Ben en fait, avant de laisser la parole à Marc-Antoine, on va vous laisser pour une petite pause publicitaire, et justement, Marc-Antoine va pouvoir faire sa petite intervention après. Donc, de retour rapidement après la pause.